cœur de donner une extension à la série sur la bénédiction de Dieu. On pourrait prêcher la bénédiction de Dieu le reste de notre vie parce que cette bénédiction, elle est en Jésus-Christ. C'est l'appel du chrétien, c'est l'appel de Dieu de bénir ses enfants. On parle de la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu sur notre vie. Et même si cette série, cette thématique va se terminer, comprenons que c'est le reste de l'héritage des enfants de Dieu d'être bénis de Dieu. Amen. C'est vraiment notre héritage. Un petit récap très, très succinctement ce soir avant d'aller un peu plus loin vers la pensée que j'aimerais vous présenter. On va essayer de ne pas être long. Déjà, il est 8h25. 7h20. Il y a deux cadrans. Je vais croire à celui-là. Je ne vais pas croire en lui. On va essayer de ne pas terminer trop tard parce qu'on sait qu'il y a des métros qui s'arrêtent, il y a des RER, tout ça, c'est un peu compliqué. La situation est particulière aujourd'hui, donc on fera un peu plus courtement. Mais on a vu ensemble que bénir signifie littéralement, on part du mot vraiment, on dit en anglais « raw », « rustre », le premier mot « racine » dans l'hébreu, ça voulait dire littéralement « louanger un serviteur », être fier d'un subordonné, d'un fils ou d'un serviteur. Et cette fierté engendre donc, on révise ensemble ce qu'on a vu, engendre donc les bonnes grâces et la faveur de son maître. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est la faveur. C'est Dieu qui octroie sa faveur, qui bénit, qui aide son fils, sa fille, son serviteur et sa servante. Et ce dernier octroie plus que de l'aide, il facilite le travail de son serviteur dans le but de lui procurer une grande abondance de bonheur. Dites avec moi, abondance de bonheur. Amen. Il y a beaucoup de maux sur la terre, M-A-U-X, mais le désir de Dieu, c'est que ses enfants soient heureux. Amen. Malgré les déserts, malgré parfois les attentes, les épreuves, les combats, les moments difficiles qui peuvent frapper nos vies, les déceptions, même parfois on est perplexe, on vit des moments de questionnement avec Dieu. Fondamentalement, à travers tout cela, le Seigneur veut que ses enfants soient heureux. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction pourrait se comparer aujourd'hui à un patron qui soutient abondamment son employé. On voit beaucoup en France un rapport de force entre la force ouvrière et la force patronale. Mais en Jésus-Christ, la force ouvrière et la force patronale font un. Amen. Et le patron, c'est Dieu, et nous, on est ses serviteurs, et on fait un ensemble, et il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut retrouver cette belle unité. C'est la bénédiction de Dieu qui est abondamment il aide abondamment son employé dans l'intention de le faire réussir. C'est comme un bon patron qui veut que son employé réussisse. C'est un père qui veut que son fils réussisse. C'est un Dieu, c'est un sauveur qui veut que son église, ses enfants, sa fille, son fils réussissent et avancent par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen ce soir. Amen, hallelujah. Il désire vraiment le faire prospérer. On a vu aussi dans Nombre 6 que Dieu avait instauré par Aaron, il dit à Moïse, tu diras à Aaron qu'il y aura une formule de bénédiction. Donc vraiment, les gens venaient au temple, on posait la main sur eux et le sacrificateur proclamait une formule de bénédiction. Maintenant, nous savons, on ne peut pas refaire tous les messages, mais on a vu ensemble que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, c'était l'ombre du Nouveau Testament et que notre Dieu n'est pas attaché à la liturgie ou au rituel ou quelque chose qui serait seulement superficiel, mais Dieu cherche le cœur. Amen. Bien sûr, il y a de bonnes pratiques en tant que chrétien, il y a de bonnes routines, il y a des bonnes routines de vie. Chacun d'entre nous, on exerce des routines de vie tous les matins, tous les jours, et elles sont constructives. Un homme qui bâtit une maison va poser un parpaing du ciment, un parpaing du ciment, un parpaing du ciment, le maçon, un parpaing du ciment. Il fait quelque chose de routinier, mais au final, il a construit une maison. Il y a des bonnes routines en Jésus-Christ, de bonnes routines de vie chrétienne, mais ce n'est pas comme les rituels. Dieu ne cherche pas le rituel. Dieu ne cherche pas la liturgie. Dieu cherche le cœur. Et quand Dieu dit, vous allez donner cette bénédiction, on l'a vu ensemble que Dieu nous appelait, c'était prophétique que Dieu nous appelle à être une source de bénédiction, à faire du bien aux gens autour de nous. Et Dieu veut vraiment qu'on dépasse une simple vie une religiosité, ou on pourrait dire une foi seulement superficielle, mais quelque chose de profond, de sincère. Et Dieu a fait d'un homme un exemple de bénédiction. Il y a un homme dans la Bible à qui Dieu a dit qu'il le bénirait, et c'est incroyable à quel point Dieu l'a répété, et c'est Abraham. Maintenant, la bénédiction d'Abraham, elle a été recherchée par sa descendance, et on a vu ensemble que dans Galates 3:14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche les non-juifs. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, j'ai la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ, j'ai la bénédiction d'Abraham. C'est extraordinaire. Maintenant, notez bien ceci. Ce n'est pas par nos mérites. Et même Dieu a béni Abraham non par ses mérites. Même la Bible le dit, même Paul le dit, le Nouveau Testament le dit, que Abraham n'a pas été béni parce qu'il était meilleur que les autres. Il a été béni parce qu'il a cru en Dieu. Il eut la foi en Dieu. Il était le père de la foi. Et en Jésus-Christ, si nous croyons dans les mérites de Jésus-Christ, exactement comme Christine a chanté, nous avons la bénédiction d'Abraham et nous recevons par la foi, donc non par nos mérites, l'Esprit de Dieu qui avait été promis. N'est-ce pas merveilleux? Donc, l'ultime bénédiction de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous bénir. J'aimerais vous montrer ce soir un texte qui est pour moi un très bel exemple de cette bénédiction, de ce, plus qu'un souhait, mais un profond désir du cœur du Père, du cœur de Jésus-Christ, de te bénir. Et comme on l'a vu, c'est comme le patron qui aide son employé. On va avoir une situation très particulière où Jésus va aider littéralement ses disciples dans leur travail. Et cette situation, elle est vraiment notoire. Elle nous montre à quel point Jésus veut nous bénir. Et c'est dans Jean, chapitre 21, Jésus est ressuscité. OK? Et c'est marquant, c'est très interpellant de découvrir qu'entre le jour de la résurrection et le jour de l'ascension, il s'est passé 40 jours. Les deux grands actes de justice que Jésus a opérés en notre faveur sont la mort et la résurrection, on les met en un seul, OK? La croix, la mort et la résurrection, on les met en un seul acte, si vous me permettez ce soir, et l'ascension. Jésus devait mourir pour nous, il devait ressusciter. Paul le dira aux Corinthiens, je pense dans 1 Corinthiens 15, si Jésus n'est pas ressuscité, on ne croit pour rien, ça ne sert à rien ce qu'on croit. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Jésus a tout accompli à la croix, dans sa mort et sa résurrection, tout est bouclé, tout est final, tout est complet, tout est parfait. Mais il va se dérouler 40 jours, très interpellant, dans Acte 1, où Jésus ne monte pas au ciel tout de suite. Et le dernier acte de justice que Jésus devait accomplir, c'était celui du grand sacrificateur, vous connaissez, hein, qui devait aller dans le lieu très saint présenter le sang de l'agneau. Et Jésus va présenter son sang, la vie est dans le sang, donc il va présenter sa vie, ses mérites. Il va monter au ciel, littéralement. Devant eux, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Il va aller à son Père. Et l'auteur aux Hébreux nous dit qu'il va présenter son sang comme mérite pour nous donner accès à Dieu. Ce sont les deux grands actes de justice méritoires pour nous. Il n'y a aucune religion dans le monde, je n'en connais pas, je les ai étudiés, et les hommes que je lis aussi, les théologiens, n'en ont pas trouvé. Il n'y a aucune religion qui présente ce qu'on appelle la substitution légale comme dans le christianisme. Le christianisme, c'est extraordinaire, c'est que Dieu accepte que quelqu'un l'ait fait pour toi. Dans la justice des hommes, c'est inacceptable. Il y a quelques années, il y a un frère qui était allé en prison pour son frère. C'est pas lui, c'est pas le frère numéro un qui avait commis le crime, c'est le frère numéro deux. Ils ont échangé d'identité et le frère numéro un est allé en prison pour le frère numéro deux. Et quand la police, quand les services juridiques judiciaires s'en sont aperçus, ils l'ont retiré parce que ça ne se fait pas en France. Si c'est toi, si c'est José qui a commis un crime, je ne peux pas aller voir le juge et dire « je veux purger la peine à la place de José ». La justice française va me dire « non, M. Robichaud, c'est à lui de purger sa peine ». Mais quelle grâce de Dieu! Incroyable! S'il y a un être de parfait dans sa justice, dans tout l'univers, c'est Dieu. Et dans sa justice parfaite, Dieu accepte la substitution. Et Dieu a accepté que Jésus, non seulement meure et ressuscite pour nous, mais comme Paul dit, on est placé en lui par la foi, donc c'est comme si c'était nous, on est quitte avec le passé, le péché, ces choses-là. Mais après, Jésus monte au ciel, il présente son sang à Dieu, il le fait pour nous, et Dieu dit oui, amen. Maintenant, entre les deux, 40 jours sur terre, pourquoi? Moi, je pense que c'est mon avis, mais je pense que c'est purement pédagogique. La Bible dit dans Acte 1 que Jésus est resté pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il s'est manifesté 40 jours à ses disciples pour leur enseigner le royaume de Dieu. Et je pense ici que dans Jean 21, Jésus va enseigner un principe. Tu vois, il y a énormément de richesses dans ce chapitre-là et on ne peut pas tout sortir ce soir, je ne veux vraiment pas être long, mais j'aimerais vous montrer une vérité fondamentale sur la bénédiction de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ veut travailler, marcher, vivre avec toi. Dans Jean 21, Jésus est ressuscité. C'est une sorte de parenthèse entre la croix et l'ascension. Entre la crucifixion, la résurrection et l'ascension. Il y a cette parenthèse où Jésus prend le temps, mes amis, d'aller voir ses disciples. Il prend le temps de revenir vers eux, de leur enseigner, de leur parler. Et là, il va faire quelque chose qui est très interpellant. La Bible dit ceci. Après cela, verset 1er, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. On sait qu'ils sont rentrés chez eux. En passant, on ne rentrera pas dans les détails, mais Jésus leur avait demandé autre chose. Et ils sont rentrés chez eux et on sait que Pierre est dans une sorte de découragement. Et Pierre va retourner pêcher, va retourner à son ancien métier. Et Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Souvenez-vous que Pierre avait tout quitté pour Jésus. Donc, il avait quitté ses barques, il avait quitté ses choses pour Jésus. Et là, il retourne à sa barque. Ici, vous connaissez l'entretien qu'il aura avec Jésus après. On sent qu'il y a quelque chose qui est à régler entre lui et Jésus. Jésus lui dira, « M'aimes-tu, Pierre? » Pierre dit oui. Et Jésus, vous savez, répète trois fois, mais de façon un peu différente. Et Pierre, la Bible dit, il est un peu abattu d'entendre Jésus. Il y a des choses qui doivent se vivre entre Jésus et Pierre. On peut vraiment comprendre ce soir que Pierre est fort probablement ici dans une sorte de, je ne dirais pas de cœur rétrograde, de retourner dans le péché, mais je vais retourner à mes bateaux. Je vais retourner à mon métier, je vais retourner pêcher des poissons. Et le matin venu, on sait qu'il pêchait la nuit, hein, c'était plus facile d'attraper les poissons la nuit. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il est à peu près à 100 mètres d'eux. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Là, je vais sauter au verset 8, parce qu'il y a beaucoup de richesses, mais je veux rester bien concentré. Les autres disciples vinrent avec la barque, donc ils remplissent le filet, ils découvrent que c'est Jésus, vous connaissez l'histoire, Pierre s'est déshabillé, il se rhabille, il saute dans l'eau, il va nager jusqu'à Jésus. Les disciples ramènent la barque et, on arrive au verset 8, les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres, verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, et il fit de même avec le poisson. Vous savez, ce qui me touche dans cette histoire, on va voir ensemble, c'est que Jésus va unir son travail au travail des disciples. La première chose qui me touche, c'est qu'il n'y a aucun reproche de la part du Seigneur ici. On ne sait pas dans quel état de cœur était Pierre. On ne sait pas à quel point il était une sorte de retour en arrière ou peut-être que voilà, déçu de lui-même, il avait renié Jésus, vous connaissez bien l'histoire. On ne sait pas ce qu'il y avait dans son esprit, mais une chose que l'on sait, c'est que Jésus va rester silencieux. Il ne va pas lui reprocher d'être retourné à ses barques. Au contraire, il va l'aider. N'est-ce pas extraordinaire? Et pour moi, Jésus nous parle dans ce qu'il dit, mais Jésus aussi nous parle par ce qu'il fait. Et j'aimerais surtout attirer votre attention ce soir sur les actes que Jésus va poser. Jésus va bénir leurs efforts. Il voit qu'ils doivent, ces hommes doivent nourrir leur famille, doivent nourrir leurs enfants, leurs femmes et leurs enfants. Mais ils n'ont rien péché, ils n'ont pas réussi. Et la présence de Jésus qui revient dans leur vie va amener la bénédiction. Et Jésus leur dit, jetez les filets. Ils vont jeter le filet alors qu'ils n'ont rien attrapé. Vous connaissez, c'est tellement simple. Mais pour moi, c'est prédicateur pour ma vie de dire que en Jésus-Christ, le Seigneur veut aider notre travail. Le Seigneur veut aider. Il y a une part qui revient à Dieu, mais il y a une part qui revient à nous. On a des efforts à faire dans notre vie personnelle, ou simplement dans notre travail quotidien de tous les jours. Il y a une part qui vous revient, mais il y a une part qui revient à Dieu. Et les gens qui vivent sans Dieu portent tout sur leurs épaules, portent toute la charge, toute la pression du travail. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croulent sous le stress qui leur est imposé. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants acceptent la pression du monde dans leur travail. Dieu veut bénir nos efforts et notre travail. Amen. Il va même les diriger, il va leur dire, jetez à droite, jetez le filet là. Jésus n'a rien fait pour rien. Et je suis convaincu que le Seigneur peut vous aider dans votre travail. Il peut vous montrer, il peut vous diriger, il peut vous dire, jette le filet là, va là. Le Seigneur veut et peut nous diriger. Quelqu'un dit amen ce soir. Je vais plus loin. Il va même protéger leur travail. Parce que Jean souligne que, alors que le filet était bien plein de 153 gros poissons, le filet ne se rompit pas. Si le filet s'était brisé, ils auraient tout perdu. Et le filet est surchargé. Il aide, ça, moi, je connais rien, mais eux, ce sont des professionnels, c'est leur métier, ce sont des pêcheurs. Et Jean souligne, il dit, mais c'est incroyable, on avait trop de poissons pour le filet. On était au-delà de nos capacités humaines dans notre travail, mais Jésus a protégé notre travail. Amen. Vous savez, on vit dans un monde qui est difficile, on vit dans un monde où moi, j'entends toutes sortes d'histoires de gens qui travaillent dans des équipes, une sorte d'église qui travaillait pour une équipe de chercheurs. Et au final, alors qu'elle fait des très, très belles recherches, en laboratoire, elle m'a dit, pasteur, elle dit, je n'obtiens au final aucun mérite de mon travail, c'est mon patron qui prend tout. Mais voyez-vous, en Jésus-Christ, le Seigneur a béni, je n'ai pas le temps de rentrer dans son témoignage, mais le Seigneur a béni cette sœur malgré son travail. Et le Seigneur l'a honorée parce qu'en Jésus-Christ, les gens qui vivent sans Dieu sont livrés à eux-mêmes. Mais lorsque tu es venu à Christ, il faut que l'on découvre ensemble cette paix, mes amis, que non seulement le Seigneur veut bénir tes efforts, mais le Seigneur peut diriger ton travail et le Seigneur peut protéger ton travail. Le Seigneur peut le garder. Et on va plus loin. Ils arrivent et qu'est-ce que Jésus a fait? Pour moi, c'est tellement simple. C'est quelque chose qui pourrait vous paraître petit ce soir, mais rien n'est banal avec Jésus. Ils arrivent et Jésus a fait un feu de braise. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas comment il a fait, mais il est Dieu. Il a pu dire, clac, et ça y est, c'est fait. Et les gars arrivent, et sur la braise, il y a du pain, il y a du poisson. Donc, ils ont fait une part. Il y a une part qui te revient. Et dans ta part, Dieu veut t'aider, Dieu peut te diriger, Dieu peut protéger ton travail, Dieu veut bénir ton travail. Mais en plus, j'aimerais te dire, il y a une part qui revient à Dieu. Et ils arrivent, ils n'ont rien demandé, et Jésus a déjà préparé le petit déjeuner. N'est-ce pas extraordinaire? Parce que c'est le matin. Et à l'époque, on sait que ces gens-là mangeaient le pain et le poisson même au petit déjeuner. Donc, littéralement, Jésus a préparé un petit déjeuner pour eux. Ce n'est pas banal, mes frères et sœurs. Pour moi, c'est extraordinaire. Dieu t'aime jusque dans les détails de ta vie. Dieu veut t'aider. Dieu veut te bénir. Dieu, j'aime bien cette expression qui dit, Dieu est le facilitateur de notre travail. Amen. Il est celui qui fait un chemin lorsqu'il n'y a pas de chemin. J'aime bien une traduction qui parle de Paul, où Paul dit « Dans les impasses, nous passons. » Et en Jésus-Christ, on a cette grâce en Dieu d'entrer dans cette vie, non par nos mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ. Entrer dans cette vie où Dieu bénit, où Dieu aide dans nos efforts, où Dieu dirige notre travail, où Dieu protège notre travail et où Dieu fait ce que l'on ne peut pas faire. Et je termine avec ceci, quelque chose de merveilleux. Jésus dira quelque chose qui m'interpelle et qui touche mon cœur. Je l'ai pris pour ma propre vie, ça m'a fait beaucoup de bien, je vous partage ce soir. Mais Jésus, il y a un poisson qui est sur la braise qui ne vient pas d'eux. On ne sait pas d'où il vient. Jésus a multiplié pain et poisson, c'était rien pour Jésus de créer des poissons et les mettre sur la braise. Amen. On croit ces choses. C'était rien pour Jésus préparer du pain et du poisson, le mettre sur la braise. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, amenez aussi un peu de votre poisson. Et j'aimerais vous dire, pour moi ici, c'est un symbole. Jésus a fait beaucoup, beaucoup. Si vous lisez les évangiles, si vous aimez les évangiles, moi j'aime énormément les évangiles, vous allez remarquer que Jésus a dit des choses mystérieuses qui, avant l'apôtre Paul, étaient incompréhensibles. Jésus a dit des choses qui étaient, et ça va vous choquer ce soir, Jésus a dit des choses dans les évangiles, certaines fois, qui étaient incompréhensibles, qui étaient mystérieuses. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, Paul dira aux Éphésiens, vous pouvez lire dans mes écrits ma compréhension que j'ai du mystère de Dieu. Donc Jésus a dit, il a fait des choses mystérieuses qui étaient symboliques. Jésus a fait des choses qui sont symboliques. Il a pris de la salive avec de la terre, il en a fait de la boue, il l'a mis sur les yeux. Il n'a pas expliqué pourquoi. Voyez-vous, ça donne libre cours à toutes sortes d'interprétations. Mais quand le Nouveau Testament arrive et les Épîtres arrivent, on découvre et nos yeux s'ouvrent sur la Nouvelle Alliance, sur l'union que nous avons avec Jésus-Christ. Et mes amis, tout le Nouveau Testament est à propos d'un mot, l'union que nous avons avec Jésus-Christ, notre union. Et c'est cette union qui amène la bénédiction. Ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas tes efforts, ce n'est pas ma justice, ta justice, c'est sa justice. Ce n'est pas mes efforts, ce ne sont pas mes mérites, ce sont ses mérites. Et c'est en se cachant et en cessant d'essayer de mériter la bénédiction de Dieu, en abdiquant et en entrant dans les mérites de Jésus, que nous serons agréables au cœur du Père et qu'on va vraiment toucher la bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit amen ce soir. C'est le plus profond désir de Dieu, c'est arrêter d'essayer de mériter la bénédiction de Dieu. Entrez dans les mérites de Jésus-Christ et vous allez goûter par ses mérites à la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, dans le Nouveau Testament, elle s'explique dans l'union que nous avons avec Jésus-Christ. Maintenant, regardez bien cette symbolique que Jésus va faire, et on va terminer bientôt, cette symbolique extraordinaire que Jésus va démontrer, c'est quelque chose de très simple. Jésus dit, « Mes poissons avec tes poissons, mon travail avec ton travail, tes efforts quotidiens, on a tous des efforts, on ne peut pas plaire à Dieu par nos efforts, mais on a des efforts à faire, n'est-ce pas? Parfois, on doit donner un bon petit coup de pied à la chair et louer le Seigneur. Amen. Parfois, on n'a pas envie, mais il faut le faire. Parfois, on n'a pas envie de lire la Bible, mais on va se donner un petit coup, puis on a certains efforts à faire en Jésus-Christ. Parfois, la chair veut regarder quelque chose et l'Esprit dit, ne regarde pas, tu as quand même un effort à faire de ne pas regarder le mal, n'est-ce pas? Amen. On a des efforts à faire. Mais ici, ce que le Seigneur veut montrer, c'est tes efforts et mes efforts. Pas tes mérites et mes mérites, non. Tes efforts et mes efforts. Tu as des efforts à faire, mais moi, je veux venir prendre ton poisson et mets-le avec mon poisson. J'aimerais vous dire ceci en terminant ce soir. Moi, ça touchait beaucoup mon cœur. Christian, il y a des choses que toi, tu as à faire, mais je vais les unir avec moi, ce que j'ai à faire. Voyez-vous, ce que nous faisons est imparfait, incomplet. Mais ce qu'il fait est parfait et complet. Et Dieu veut unir sa perfection avec mon imperfection. Ce qu'il fait est complet, ce que j'apporte est incomplet. Mais Jésus dit aux disciples, apportez de ce qui est à vous, et on va le mettre avec ce qui est à moi. Amen. L'émission s'approche, on va terminer en prière ce soir, avant de se laisser, l'heure passe très, très vite. Mais, vous savez, c'est très, très différent aujourd'hui. Notre société a beaucoup changé. Aujourd'hui, une femme peut être complètement indépendante de l'homme. Une femme aujourd'hui peut se lever, faire ses études, avoir une profession, se payer un appartement, une voiture, avoir une vie professionnelle, une carrière, tout ça. Et c'est très honorable et je comprends que les femmes font cela aujourd'hui. Et c'est bien. Mais vous savez, il y a eu une époque où la femme était totalement 100% dépendante de son mari. Elle n'avait rien. Avant de se marier, elle était sous son père. Elle portait le nom de son père. Elle vivait dans la maison de son père. Elle mangeait le pain de son père. Elle travaillait dans la maison du père. Elle était sous le père. Et un jour, un homme allait venir pour l'épouser. Et cet homme allait voir le père et pour lui dire, « Je vais épouser votre fille. » Et si le père acceptait, si ça se passait bien, eh bien, on passait à ce qu'on appelle les fiançailles. Mais les fiançailles, chez les Juifs, ce n'était pas comme on connaît aujourd'hui. Les fiançailles, c'était le début du mariage. Et le mariage juif se faisait sur une année à peu près, avec deux cérémonies essentielles. Et les deux cérémonies étaient le mariage. La fiançaille, c'était la première étape du mariage. Et alors, ce qui se passait, c'est que cette femme qui n'avait rien, qui portait le nom d'un autre, qui était sous la responsabilité, qui était dans une dépendance totale d'un homme, perdait tout. Si cet homme mourait, souvenez-vous de ce que Jésus a dit à la croix. Il se tourne vers Jean et lui dit, « Jean, voici ta mère. » Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Parce que ça veut dire que la mère de Jésus était sous la responsabilité de Jésus. Et parce que Jésus allait mourir et monter au ciel après, eh bien, un autre homme, d'après la tradition juive, devait maintenant prendre responsabilité de sa mère. Donc, il dit à Jean, « Tu vas prendre la responsabilité de ma mère. » Et c'était tout à fait coutume, et c'était d'usage. Et ne pas faire ça, ça aurait été très, très grave. Moi, j'ai même le souvenir dans mes voyages avec mon épouse, on est allé dans des endroits où ces cultures ancestrales demeurent encore aujourd'hui. Et même les gens, au lieu d'appeler mon épouse Justine par son nom, on a visité certaines cultures, et moi, je trouve ça très honorable, c'est très enrichissant de découvrir toutes sortes de cultures. Il y a des gens qui n'appelaient pas Justine par son nom, ils l'appelaient par mon nom. Ils l'appelaient Madame Christian. Parce que dans la culture ancestrale, la femme porte le nom de son époux. Et voyez-vous, ça me touche, ça. C'est très, très riche. Il y a des belles choses qu'on a perdues aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Mais j'ai rien contre les femmes qui travaillent, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est que le mariage juif d'époque est une très belle image de l'union que nous avons avec Jésus-Christ. Je m'explique. Lors des fiançailles, le fiancé disait à sa future épouse, « Un soir, je vais venir chez toi. » Et c'était une procession. « Je vais quitter ma maison et nous allons venir, moi et d'autres gens. » Il y avait comme un cortège. Et à l'époque, souvent, ça se faisait le soir. Donc, ils venaient avec des torches. « Et je vais quitter ma maison et il y aura une procession qui va venir jusque chez toi. » Tout avait déjà été convenu avec le père de la future mariée. Et il venait. Et lorsqu'il venait, il y avait un repas, il y avait une cérémonie. À l'époque, et ça, vous savez, ça se fait encore un peu comme ça, même chez les Juifs orthodoxes aujourd'hui. Et dans la cérémonie, il y avait deux moments très importants. Le premier, c'était de boire dans la même coupe. Et la fiancée et le fiancé buvaient les deux un peu de vin dans la même coupe. Ça vous rappelle quoi, ça? La Sainte Cène. Et le deuxième moment qui était très important, c'est que le fiancé donnait une bague à la fiancée. Et là, il y avait quelque chose de scellé entre les deux. Le mariage était débuté. Et dans la cérémonie, le futur époux disait à la future épouse, « Tu es à moi. Tu portes mon nom. Tu demeures encore chez ton père pour une année. » Et regardez, c'est extraordinaire. Ça nous rappelle ce que Jésus a dit. « Je vais te préparer une place. » Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? « Je vais vous préparer une place. » Avez-vous remarqué à quel point Jésus a souvent utilisé des éléments de la culture de l'époque pour que nous puissions comprendre ce que nous avons en Jésus-Christ. Et en buvant ainsi, l'homme débutait déjà sa responsabilité sur sa fiancée. Je vais revenir dans un an et tu seras complètement, pleinement à moi, mais déjà, je débute ma responsabilité sur toi. Je vais te préparer une place. Et la seule chose qui était demandée à la fiancée, une seule chose, et même, on le disait dans la procession de la fiançaille, « Tu n'aimeras aucun autre que moi. » C'était la seule chose qu'on lui demandait. « C'est moi que tu vas aimer. Ton amour est pour moi seul. » Et il buvait dans la même coupe pour sceller cette union. Et après, la fiancée, elle attendait. Elle attendait à peu près une année où l'homme allait revenir et l'épouser et la prendre avec lui. Vous savez, c'est exactement, mes amis, ce que nous avons en Jésus-Christ. Jésus a fait une alliance. C'est ce qu'il a dit avec ses disciples. Il a dit, voici le sang, mon sang. Ils n'ont pas tout compris. C'est pour ça que quand on étudie l'histoire, Calvin était connu dans le monde entier parce que Calvin est connu pour sa compréhension de l'union avec Jésus-Christ. Il a écrit des choses merveilleuses là-dessus. Mes amis, j'aimerais vous dire, la bénédiction de Dieu, elle est dans notre union avec Jésus-Christ. Amen. parce que vous êtes unis avec Jésus, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et Jésus a scellé cette chose entre nous et lui. Nous avons cette alliance avec lui. Il nous prépare une place, mais son nom est déjà sur nous. Amen. Comme à l'époque, la femme portait le nom de son mari. Même une femme pouvait arriver au marché, on pourrait dire une grande dame, riche, bien habillée, avec de jolis vêtements, pouvait débarquer au marché avec ses servantes et ses serviteurs et acheter des fruits, des légumes. Et tous les gens du village pouvaient la regarder en disant, « Oh, mais tu as vu, c'est une femme riche. » Et même à l'époque, on disait, « Mais c'est l'épouse d'un tel. » C'est la dame de tel homme. En d'autres mots, les gens savaient que si elle était si bien vêtue, si elle était si bien entourée, si elle était ainsi, il n'y avait aucun mérite sur elle. C'était par son mari qu'elle avait ces choses. Et vous savez, je ne suis pas en train de prêcher un évangile matérialiste, mais spirituellement, nous avons un vêtement glorieux en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est par ses mérites. Et par ce vêtement, par ses mérites, par cette union avec Jésus-Christ, nous avons la bénédiction de Dieu. Amen. Et le Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut marcher avec toi. Le Seigneur veut diriger ta vie. Le Seigneur veut te conduire. Le Seigneur veut te changer. Mais toi, avec lui, ensemble, Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi, Seigneur. Apprends-moi quelle est ma part pour te suivre et quelle est ta part, Seigneur. Il y a une part de Dieu, il y a une part qui me revient. Amen. On se lève ensemble en terminant. Pensez tout simple, puis on va se laisser bientôt, parce que je sais que certains trains s'arrêtent bientôt. On ne veut vraiment pas vous empêcher ou vous mettre en difficulté pour rentrer ce soir. Mais est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur Jésus avant de terminer? Hallelujah! 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 Seigneur, merci, Seigneur, parce que la bénédiction d'Abraham, nous la retrouvons en Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce que la bénédiction d'Abraham, c'est ton esprit en nous, Seigneur. Hallelujah, qui nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, merci pour cette union que nous avons avec Jésus. Merci, Seigneur, parce que comme les fiançailles étaient le début du mariage, Seigneur, nous avons cette alliance avec toi. Et même l'apôtre Paul dit, nous avons les arts en nous. On a déjà un dépôt en nous du ciel. Et c'est ton Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur. Hallelujah. Et Saint-Esprit, tu nous diriges. Tu nous conduis. Tu nous changes, tu nous parles, hallelujah. Tu aiguises notre conscience, Seigneur, car tu dis toi-même que la maturité spirituelle, c'est de bien voir ce qui est bien et ce qui est mal pour nos propres vies. Merci, Saint-Esprit, d'être ce dépôt dans nos vies, d'être les arts, hallelujah, la compte du ciel en nous. Exactement, on n'a pas tout vu, mais exactement comme à l'époque, le mari et le fiancé donnaient un acompte sur sa femme, donnaient une bague à sa femme, à sa future femme. Sa femme, c'était déjà débuté l'union. Seigneur, tu as débuté une union avec nous, Seigneur. Hallelujah. Nous sommes héritiers par Jésus-Christ. Tu marches avec nous ce soir. Tu rentres à la maison avec nous ce soir, Seigneur. Seigneur, tu nous dis, amène tes poissons, j'amènerai mes poissons. Fais ta part, je ferai ma part. Hallelujah. Merci, Seigneur, parce que tu veux diriger notre travail. Tu veux bénir notre travail, Seigneur. Tu veux faire ce que nous ne pouvons pas faire. Tu as protégé leur filet, Seigneur. Tu protèges, Seigneur. Seigneur, tu es avec nous. Tu aimes tes enfants, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Amen.